Bonjour Alix.
Bonjour Jérôme.
Ravi que tu sois parmi nous.
Bah écoute, moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation.
Donc je vais rappeler un petit peu à notre audience qu'est-ce que le ESD Podcast. Donc le ESD Podcast a pour sujet de parler de plein de choses, dont les métiers de la cybersécurité. On en a déjà fait un sur le pentest, sur les métiers de la GRC. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre le métier d'entrepreneur. Entrepreneur, ça se dit pas, mais on va dire entrepreneur avec un E. À la fin, afin de pouvoir aussi montrer à nos auditeurs, nos ESD alumni, qu'il y a aujourd'hui en France des femmes, des hommes qui entreprennent et qui font des trucs super, donc ce que tu fais. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui, quel est ton parcours ? Qui es-tu, Alix ?
Eh bien, donc, je m'appelle Alix Van Den Bogaard. Je suis la fondatrice de GenSib, donc qui est un outil qui aide les utilisateurs à générer très simplement leurs politiques et procédures de sécurité, donc de cybersécurité, bien sûr, conformes aux normes et réglementations qu'il y a actuellement sur le marché. Donc, ils peuvent choisir leurs normes et avoir des questions qui vont les aider à rédiger leurs politiques et procédures de sécurité. Je suis pas du tout arrivée là, c'était pas planifié, on va dire. Je suis vraiment arrivée là au fur et à mesure de mes expériences parce que je suis initialement issue d'un milieu juridique. Donc j'ai deux masters en droit, un en droit international et un en carrière publique, sécurité et défense. Et c'est dans celui-ci, en fait, dans le deuxième, que j'ai découvert la cyber. Et à l'issue de mon master 2, j'ai eu la possibilité d'intégrer une formation intensive en cybersécurité. Et puis c'est là que j'ai commencé à travailler. Donc, c'était pas planifié, c'était pas une vocation, la cyber, à première vue. Mais par contre, quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouvais les enjeux hyper intéressants et c'est comme ça donc, que je suis arrivée en cyber. Après, pour la partie entrepreneuriat, bon, on aura le temps d'y revenir au fur et à mesure des autres questions. Mais ça s'est fait vraiment petit à petit, mais très naturellement.
D'accord, très bien. Donc, un gros background quand même juridique. Je pense que ça peut aider pour ce que tu fais aujourd'hui, ça c'est clair.
La conformité.
La conformité. c'est ce qui manque peut-être au niveau de la GRC, c'est peut-être l'appui juridique, donc là c'est parfait. Comment était venu le déclic de te dire « Maintenant, j'ai trouvé un besoin, ce besoin, je vais en faire quelque chose et je vais devenir entrepreneur ?»
Bah, ça s'est fait vraiment très progressivement. En fait, j'ai commencé à travailler en cybersécurité à Monaco, où je faisais énormément d'analyses de risques. Premier constat, ça a été que ça soit pour le gouvernement princier, que ça soit pour les OIV, que ça soit pour la commune ou pour des entités privées, on avait souvent les mêmes types de risques, les mêmes spécificités, que ça soit technique ou autre, même si bien sûr les règles de paramétrage vont varier d'une entité à l'autre ou autre. On retrouve quand même un socle qui est toujours très commun. Même dans les normes aujourd'hui, les recommandations que tu prennes DORA, NIS de 27001, on va te demander de mettre de la gestion d'accès et de faire des analyses de risque. Donc il y a toujours un socle commun finalement qui s'y retrouve. Et je me suis dit, je pense qu'il y a moyen à un moment de faire quelque chose qui va permettre d'harmoniser la façon dont on amène la gouvernance et la conformité. Parce qu'on est toujours en train de faire un petit peu les mêmes choses. Lorsque je me suis lancée en freelance, j'ai commencé à rédiger des politiques et procédures de sécurité. C'était énormément pour ça qu'on me contactait. Et je me rendais compte qu'encore une fois, d'une entité à l'autre, alors avec des petites variations bien sûr, mais on reprenait quand même toujours le même sommaire, plus ou moins. On faisait vraiment des ajustements qui étaient parfois minimes et pourtant qui collaient à la réalité d'une entité ou d'une autre entité. Et à un moment, je me suis dit, les entreprises avec lesquelles je ne conclue pas, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles manquent de moyens financiers. Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, je n'ai pas besoin de te le dire, c'est très cher comme milieu. Donc finalement, je me suis dit, je pense qu'il y a un moyen pour pouvoir, pas scaler, parce que c'est un mot qui est vraiment business, mais au moins de pouvoir détacher, décorréler mon temps de mes prestations. Parce que j'ai compris que si je restais que en prestations, je ne pourrais jamais aider autant d'entreprises que j'avais envie. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que toutes les entreprises en France, déjà pour commencer, mais on a des grands projets. Toutes les entreprises doivent avoir un corpus cyber avec tous leurs process sécurisés, tout qui soit cadré. Comme ça, elles savent exactement quoi faire, quand le faire, comment le faire. Et je veux que toutes les entreprises en France le fassent. Je ne veux plus avoir d'entreprises qui n'ont pas de PSSI, qui n'ont pas de plan de réponse à incident. Et je ne veux plus qu'elles payent 50 000 euros pour avoir un corpus complet.
Oui, très bien. Effectivement, ayant travaillé dans la GRC, c'est une problématique et un besoin qui est évident. Je pense que ça va parler à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans ce milieu-là. Le corpus documentaire, le système de management à monter, il est juste... il est juste technique. Et est-ce que tu as fait, par exemple, avant de rentrer dans l'entrepreneuriat, parce que tu vas donner envie, je pense, à plein de jeunes, il faut qu'ils nous écoutent et qu'ils se disent aussi, est-ce qu'il y a encore moyen d'entreprendre en cyber en France ? Je pense qu'on est tous les deux d'accord. Est-ce que tu as fait des erreurs ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont permis d'apprendre ? Parce qu'on apprend souvent l'entrepreneuriat de ses erreurs. Est-ce que tu as des choses à nous raconter là-dessus ? Sans parler d'anecdotes, hein, juste quelles sont les erreurs à ne pas faire pour être entrepreneur
alors,
en cyber ?
Je dirais que la première erreur que j'ai fait au début, c'est que je voulais absolument très bien faire. Je pense que les gens, peut-être qui vont écouter ce podcast, ils ne me suivent pas encore peut-être, mais j'étais très présente sur LinkedIn avant de commencer à parler de mon projet. Les gens savaient que je suis très carrée, j'essaye de prodiguer beaucoup de valeur et je suis parfois trop carrée. J'ai vraiment du mal à me laisser aller, me dire « allez, on fait ça et on verra ce que ça donne ». Et au début, en fait, lorsque j'ai commencé à confronter ma solution au marché, je prenais en compte les retours de tout le monde. Alors, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas confronter ses idées au marché, c'est même nécessaire et primordial. Mais quand on a plein d'idées, qu'on voit 50 prospects et que 50 prospects nous donnent 50 idées différentes, ça peut en fait flouter notre vision, ça peut un peu nous empêcher de réaliser, ça nous empêche d'être centré sur nos objectifs. Et du coup, on peut avoir tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc à la fois, j'ai eu des très bonnes idées. Par exemple, au début, je n'avais pas du tout pensé à ce que ça soit un logiciel à part entière. Gensip, je pensais juste vendre les templates comme ça. Et puis quelqu'un m'a dit, moi, je ne l'achète pas si ce n'est pas un logiciel. Et là, j'étais là, OK, très bien. C'est une très bonne idée. Mais en même temps, j'ai eu des gens qui m'ont dit, moi, je veux du SSO. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Et c'est seulement pour ça que je prendrais Gensip. Sauf que c'est difficile. Nous, on fait uniquement du bootstrapping jusqu'à présent. On va essayer d'avoir des investisseurs en 2026.
Bootstrapping, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est partir justement de rien, entre guillemets, pour développer une solution.
On a fait du financement perso. Enfin, c'est mon financement perso jusqu'à présent. En 2026, on va essayer d'avoir des investisseurs. Mais du coup, on ne peut pas prendre toutes les idées comme ça. Surtout pour des gens qui ne sont pas encore clients de Gensip. Tu vois, si j'étais sûre qu'à la limite, ils signent derrière, mais on n'est jamais vraiment sûr. Donc ça, c'était très compliqué pour moi. Au début, j'ai vraiment eu du mal à centrer et à rester fidèle à ma vision et à faire confiance à mes idées et de pas... de réussir à trier le bruit qu'il y a autour et les recommandations qu'on me fait pour pouvoir prendre uniquement le meilleur pour avancer dans la bonne direction.
J'ai un peu le même retour, hein. C'est que c'est vrai qu'avec 15 ans d'entrepreneuriat, alors je vois que peut-être le parti juriste et se retrouve aussi avec les côtés ingé où c'est la tendance à vouloir toujours faire parfait et au final pas vendre. Or, ce qu'on apprend quand même en école de commerce ou autre, c'est que c'est le besoin client avant tout. D'avoir un MVP, d'avoir quelque chose qui est déjà utilisable mais pas parfait, et le perfectionner ensuite avec le Customer Laboratory, où donc on a des clients, c'est eux qui vont nous dire quoi faire, mais pas tous les clients.
Exactement.
On prend des priorités. Comment t'as gagné la confiance de tes premiers clients ? Comment ça s'est passé ? J'imagine que ça a dû être la fête, ça a dû te faire du bien.
Ah, le premier client, je m'en rappelle encore. Je me rappelle même le jour où je l'ai signé. Donc voilà,
c'est
c'était le 14 avril 2025.
Yes.
C'était 4 jours après notre premier webinaire. Je dirais que la confiance, en fait, elle est venue en amont. Ils ne m'ont pas découvert à travers le webinaire. Donc, pour officialiser le lancement du MVP en avril dernier, on avait fait un webinaire, voilà, on a fait une démo publique et à l'issue de ça, les gens pouvaient réserver avec moi des démos ou plus d'informations et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Mais en fait, les gens qui sont venus au webinaire, c'était des gens qui me suivaient déjà sur LinkedIn et j'avais passé des mois à préparer le terrain, en fait, presque en donnant des tutoriels de A à Z sur comment rédiger les process, comment rédiger les politiques, qu'est-ce qui était important d'avoir dans une politique ou dans une procédure pour qu'elle soit actionnable immédiatement. Donc je mettais tout ce qu'il y avait, et il y avait même des gens qui me disaient, mais Alix, arrête, tu es en train de te tirer une balle dans le pied avant même d'avoir lancé ton outil qui permet de faire ça, parce que tu leur dis exactement ce qu'ils doivent faire. Et je me suis, c'est jamais comme ça que je l'ai vu. J'adore en fait prodiguer de la valeur. J'adore que les gens ils aient compris avec moi, parce que je me dis, s'ils ont compris, ils me font confiance. S'ils me font confiance, ils vont acheter mon outil, parce qu'ils savent que je suis carré. Ils savent que pour moi, la qualité prévaut sur la quantité. Et donc, c'est comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, les gens, j'ai eu beaucoup d'impressions, beaucoup de retours, beaucoup d'abonnés. Je crois que j'avais gagné 4000 abonnés en l'espace de 3-4 mois au moment où je me suis mise vraiment à poster sur LinkedIn. Et donc, les gens sont venus, en fait, de là. Ils sont vraiment venus en disant, bah, Alix, c'est devenu Miss Conformité. Et en fait, on sait qu'avec elle, bah, on aura nos politiques et procédures conformes aux normes qu'on veut. Donc, le MVP était seulement sur ISO 27001. Là, maintenant, on a 4 nouvelles normes et on est en train d'en intégrer 2 nouvelles. Et donc, c'est de là qu'ils sont venus. C'est vraiment avec la valeur que je prodiguais gratuitement en amont, ma disponibilité pour répondre à toutes les questions et tous les commentaires qui ont fait que les gens se sont dit, je vais aller voir son outil. Et après, ils se sont dit, OK, elle m'a convaincu, je signe.
C'est intéressant. Alors donc, pour tous nos cyber-entrepreneurs, nos futurs, le message moi que j'entends derrière ça, c'est que il y a peut-être une valeur ajoutée à être cyber quand même, parce qu'aujourd'hui on a quand même deux profils. On va avoir l'ingé spécialisé qui va développer sa solution et qui va la vendre, et on va avoir la personne qui sort plutôt école de commerce et qui va bien s'entourer pour le faire, et d'être aussi proche de la solution, de la comprendre aussi bien, de faire autant d'efforts, c'est peut-être un gage d'excellence qu'on pourrait avoir justement dans l'entrepreneuriat cyber. Et ça, c'est quand même génial de savoir que le fait de bien connaître son métier, ça permet parfois d'avoir un temps d'avance. Donc c'est génial. Moi, j'adore. Quelle décision pour toi était difficile à prendre en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse ?
Alors, celle-là, je l'ai prise il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a trois mois et demi. Ça a été de me séparer de mon développeur. Et ça a été une décision qui a été très compliquée à prendre. Déjà, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Je pense que ceux qui nous regardent savent ce qu'est un développeur. Donc, un développeur, c'est quand même la personne qui possède tout le code de ton application. Je précise que je ne suis pas développeuse. Donc, je suis ce qui est considéré dans le langage entrepreneuriat fondateur non technique. Ça ne veut pas dire que je ne comprends pas, parce que je comprends la cyber, etc., mais je ne suis pas quelqu'un qui code au quotidien. Et donc, j'avais trouvé un développeur avec qui je travaillais déjà depuis plusieurs mois, où il y avait de la confiance qui était établie. Donc, voilà. Et puis, en fait, au bout d'un moment, j'ai senti comme un décrochage de sa part, des jours pour répondre à mes messages, pas de vision, pas de planning, des semaines pour développer des features hyper simples. J'ai découvert d'autres choses derrière qui m'ont sidérée. Et pourtant, je n'arrivais pas à dire stop. Parce que j'étais terrorisée par le fait que le mec se barre avec mon code ou qu'il me mette des backdoors, enfin des grosses failles de sécurité, etc. dans mon code. J'avais peur qu'il me la... Enfin, tout simplement qu'il me mette dans l'embarras, parce que, encore une fois, je le redis, tout a été en fonds propres. J'ai tout financé moi-même. Donc, c'est des Bien années sûr. D'économie pour avoir financé tout ça. Il n'y a pas que le développement qu'on paye, je n'ai pas besoin de te l'expliquer, mais dans l'entrepreneuriat, il y a plein de frais annexes autour qu'on ne voit pas, les frais cachés. Donc, c'est des dizaines de milliers d'euros qui auraient pu partir en fumée comme ça. Donc, cette décision, elle a été très compliquée, mais il fallait le faire. Il fallait le faire, il y avait beaucoup trop de choses qui n'allaient plus. Et en fait, on avait des mois de retard. C'est-à-dire que nous, la deuxième version, enfin la V1 après le MVP aurait dû sortir en octobre. Le 1er octobre, c'était ma date. On avait... juillet, août pour le développement, septembre pour les tests, octobre pour lancer. 1er novembre, on n'avait toujours pas lancé, j'avais toujours pas de date de prévision de lancement, rien. C'était une catastrophe. J'ai fini par dire stop, et aujourd'hui, on a une équipe complète maintenant. Donc, j'ai deux développeurs, un QA, donc qui s'occupe des tests, un UX designer, une DPO, et en fait, on fonctionne beaucoup mieux. Et c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. On a décidé de tout recoder, par contre, pour éviter des problèmes de propriété intellectuelle ou des problèmes justement de failles de sécurité qui auraient pris plus de temps à corriger. Mais c'était très compliqué. Mentalement, moi, j'avais des personnes dans l'équipe qui me disaient depuis déjà plusieurs mois qu'il fallait que j'arrête la collaboration avec lui, et j'y arrivais pas. j'y arrivais pas et ça me bouffait intérieurement. Oui. Mais meilleure décision. En fait, parfois, il y a des gens, ils vont vraiment nous retarder. Et je dirais que la force d'un entrepreneur, c'est justement de se détacher du projet et de garder seulement la vision et de se dire, OK, si ça fait des dommages maintenant, c'est pas grave parce que à long terme, à moyen long terme, les effets ne vont être que bénéfiques. Et moi, là, les effets, je les ai vus en l'espace de quelques semaines.
Ah donc, oui, ça a dû te faire un bien
oui.
énorme, énorme.
J'en pouvais plus, ça m'empêchait de dormir la nuit ça, j'en étais malade. Ça. Même moi, ma motivation sur le projet, en fait, elle s'est essoufflée avec lui parce que quand il y a quelque chose qui n'avance pas et que toi, tu n'as pas les moyens de faire avancer, ou en tout cas, tu as l'impression que tu n'as pas les moyens de faire avancer la chose plus vite, ça te paralyse presque. Donc... c'était vraiment la meilleure décision, mais la plus difficile que j'ai eu à prendre et avec laquelle il a fallu quand même avoir beaucoup de tact, etc. Donc, j'ai été pas mal aussi critiquée dans la communauté des développeurs pour cette décision et sur la façon de l'avoir prise un peu tard. Mais bon, c'est autre chose.
Oui. Alors, donc, bien s'entourer, ça, c'est pas facile. Cadrer les personnes à qui qu'on va s'entourer, c'est une chose qu'il faut absolument mettre en amont. On n'a pas forcément les pouvoirs RH quand on part de fonds propres, on part de rien. Et surtout, on va faire des erreurs et il faut absolument changer le projet en premier.
Oui.
Le projet avant soi, avant tout.
On a beau être entrepreneur, on n'est pas forcément manager. Oui. Manager, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. C'est un métier à temps plein, cadrer ses équipes. Parce que si toi, tu n'es pas cadré dans ta tête, tes équipes ne seront pas cadrées, tout va partir en fouillis. Et je me suis beaucoup remise en question. J'ai dû accepter de moi-même me remettre en question sur ma capacité de manager et sur comment manager de bonne façon pour qu'on atteigne l'objectif que j'avais, sans décevoir les prospects qui attendent eux à côté, parce que ça fait des mois que je leur dis que j'ai une solution qui va arriver.
Surtout qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, il va y avoir plein de personnes qui vont vouloir monter des SaaS très rapidement, etc. Et c'est très bien, j'encourage tout le monde à le faire. Après, attention de penser que l'IA peut tout faire aujourd'hui et qu'elle va pouvoir tout gérer. Je ne pense pas. Il faut quand même que ça soit encore chapeauté. Mais ça va donner des idées. Par contre, ils vont peut-être avoir les mêmes soucis que toi.
Ouais.
C'est des soucis... donc, petit message aux jeunes qui viennent entreprendre. Si vous voulez gagner du temps, écoutez ceux qui ont déjà commis ces erreurs-là. Si tu recommencerais aujourd'hui, alors tu vas me dire oui c'est simple, déjà je n'aurais pas pris ce développeur là, mais qu'est-ce que tu ferais différemment ?
Je pense que je me formerais plus sur justement le processus de développement, qu'est-ce que c'est une application ? Parce que c'est facile, nous aujourd'hui dans le commun des mortels, on télécharge notre application et c'est tout. On ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. On ne voit pas qu'une application, c'est déjà l'analyse des besoins, la conception, le développement, le déploiement. Enfin, c'est toutes ces étapes qui sont invisibles à l'œil nu de l'utilisateur lambda. Et même moi, j'avais beau être en cybersécurité, j'avais peu fait de sécurité applicative, je n'avais jamais fait de développement. Les équipes de développement, c'était carrément une équipe à part entière dans l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Donc, je n'avais pas forcément toutes ces connaissances. Et je pense que je me formerais vraiment sur, OK, qu'est-ce que je dois savoir ? Quelles sont les grosses étapes sur lesquelles il faut que je sois carré, comprendre ? Parce que si je ne comprends pas ce que mes équipes me disent, comment je vais faire avancer le projet ? Comment je vais pouvoir prendre des décisions ? Et je pense que j'aurais gagné du temps, on va dire, sur cette façon de... Sur, par exemple, mon mauvais recrutement. Mais en même temps... Faire des erreurs, c'est bien aussi parce que c'est formateur. Et un entrepreneur qui dit qu'il n'a pas commis d'erreur, je ne le crois pas.
Je ne crois pas non plus. Je ne pense pas. Donc, même pour résumer, je dirais un entrepreneur qui n'est pas résilient, ça fait peut-être partie aussi des soft skills qu'il faut avoir. C'est une résilience absolue qui peut durer peut-être parfois beaucoup, beaucoup d'années. Mais le jeu en vaut peut-être la chandelle.
Ouais.
Très bien. Par la suite, quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui voudrait lancer maintenant dans l'entrepreneuriat en cybersécurité ?
Croire en sa vision. Franchement, je suis quelqu'un qui avait beaucoup de mal, et je l'ai réalisé notamment hier. Tiens, je vais te dire un petit truc juste après. Oui. Mais je suis quelqu'un qui est toujours « mes idées sont basiques ». J'ai toujours l'impression que mes idées ne sont pas extraordinaires et que pourtant, il faut avoir une idée extraordinaire pour entreprendre. Ah. Non, c'est faux. Même les idées les plus basiques, ou en tout cas celles qui pour nous peuvent paraître basiques, peuvent être hyper intéressantes pour les autres. Toujours confrontées, bien sûr, au marché. Donc, parler de vos idées
le
autour.
Besoin.
On a vraiment l'impression qu'il ne faut pas parler des choses parce que sinon, les gens vont me piquer mon idée ou autre. Mais non. Non, non, non. Enfin, déjà, le temps de mettre en place un projet, de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir faire aboutir ce projet, ça prend des semaines, des mois. Et puis, vous avez une idée, même si une autre personne a la même idée, la manière de la mettre en œuvre ne va pas forcément être la même. Donc ça, c'est encore une chose différente. Mais hier, j'étais au Cyber Show et j'ai rencontré différents entrepreneurs, donc voilà, des solutions, etc. Et je suis tombée sur 2-3 solutions qui font exactement ce que moi, j'avais prévu de faire dans un délai de 6 à 12 mois. Alors, sur le coup, j'étais un peu en mode « Ah zut !» Bah du coup, j'ai déjà un concurrent sur le marché alors que personne ne le faisait ça il y a 6 mois, quand j'ai eu l'idée. Et pour moi, c'était la continuité justement de notre rédaction de politiques et procédures de sécurité. C'était vraiment ce que je voulais faire juste après. Et au final, bah, je ne le vois plus du tout comme un obstacle. Je le vois plus comme, ok, bah, déjà, eux, il y en a qui ont gagné des prix avec cette idée. Donc en fait, j'aurais jamais pensé que potentiellement avec cette idée, j'aurais pu gagner un prix. Donc c'est hyper encourageant et très inspirant. Et en plus de ça, je me dis, bah, ça marche. J'ai déjà 2 concurrents, donc ça veut dire que le besoin est là.
Le besoin,
donc, voilà.
Effectivement.
Donc maintenant, je suis plus allée voir ces personnes en disant, bah, écoutez, moi, mon logiciel, il fait juste avant il fait l'étape juste avant la vôtre. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à réfléchir collaboration, interconnexion, API peut-être, ou ce genre de choses? Donc en fait, là, je le vois plus comme, bah, ok, en fait, c'est une marche supplémentaire qui m'est donnée pour pouvoir atteindre mes objectifs. Mais bon, tout ça pour dire que croire en sa vision, s'entourer des bonnes personnes, parfois, il faut prendre des décisions difficiles et confronter ses idées au marché pour être sûr quand même que bah, on n'a pas une idée et que en fait personne n'est intéressé par cette idée. Voilà. Après, tout le monde aura des recommandations, comme je te disais au début. Il faut savoir faire le tri dans ce qui est des très bonnes recommandations qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer tout de suite le produit et des recommandations qu'on peut garder plutôt pour plus tard, voir s'il y a d'autres personnes qui reviennent avec le même type de recommandation.
Ouais, d'avoir une sorte de livret des customers. J'irais même... Il y a une vidéo qui buzz pas mal en ce moment sur les réseaux de Xavier Niel, justement, qui dit « Arrêtez avec vos idées, en fait. » Les idées... Tout le monde a des idées, on a tous des idées. Non, c'est la mettre en pratique qui fait la différence.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que c'est un de mes retours d'expérience aussi. D'avoir l'application farfelue qui fait que moi, ça me plaît, ça va pas forcément plaire aux autres, ça, c'est déjà la première chose. Donc, que la réalité du marché, c'est déjà de la connaître. C'est pour ça que la première chose qu'on fait quand on entreprend, c'est quand même une étude de marché. Voilà. Des fois, elle peut être juste au bouche à oreille, à côté de soi, écouter quelque chose, mais après, il faut la vérifier. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, on n'a plus d'excuses. Et la deuxième, c'est que souvent, je disais à des amis qui sont dans l'entrepreneuriat comme moi également et comme toi, c'était de dire, bon, si je vends des patates, ça tombe, je ferai plus de sous, en fait, en réalité. On ne sait pas. Et il y a plein de gens qui vendent des patates.
Ouais.
C'est comment je vais réussir à vendre des patates qui fait la différence.
C'est quoi le marketing autour de mes patates ?
Là, je vais donner un autre exemple qui va me faire énormément vieillir, mais ça va faire rire ceux qui nous écoutent, qui ont à peu près le même âge que moi. C'est MySpace. MySpace, c'était un des premiers réseaux social. Y a quelqu'un qui est arrivé avec Facebook. Il faisait pareil, hein, pratiquement. C'est juste qu'en fait, il le faisait mieux.
Ouais.
Voilà, bon, c'est aujourd'hui Meta. Très bien. Avant de conclure, j'ai une question, c'est ma question préférée à chaque fois, peut-être que tu y as déjà répondu, mais est-ce que tu as des petites anecdotes ?
Petites anecdotes, ouais. C'est pas
celle
facile.
Celle du développeur, ça, elle est pas mal.
Ouais, en fait, ça, c'était ma grosse anecdote.
C'est pas mal. Premier client aussi, ça, c'est quand même une belle anecdote, ça fait toujours du bien.
Le premier client, c'était...
Premier partenariat, peut-être ?
Premier partenariat, d'un point de vue entrepreneur, là on est en train de réfléchir à avoir justement des ambassadeurs et des contributeurs. En fait, on se rend compte qu'on ne peut pas être partout. Déjà, il faut savoir que la solution GenSib, à la base, je voulais la vendre que pour les entreprises. Ah, ça peut être l'anecdote, tiens.
Ah, tiens.
À la base, je voulais la vendre pour les entreprises. Quand je dis entreprise, je parle vraiment l'entreprise de gestion des déchets, l'entreprise hydraulique, l'éditeur de logiciels. Je ne pensais pas aux consultants, auditeurs, freelance, indépendants, ouais. freelance, etc. Et quand j'ai lancé, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant « Moi, j'aimerais bien l'avoir, mais je voudrais pouvoir exploiter pour pouvoir accélérer mes prestations pour mes clients. » L'outil, le MVP, n'était pas du tout construit pour ça, donc ne permettait pas la gestion d'avoir plusieurs clients, etc. Ça aurait été un peu trop fouillis. Par contre, on a fait les nouveaux développements justement en ce sens. Donc maintenant, on a la possibilité d'ajouter client 1, client 2, client 3 ou organisation 1, organisation 2, organisation 3. Et justement, c'est bien en ayant été confronté au marché, parce que moi, au début, je ne voulais pas ça, que maintenant, on a étendu ça, on a ouvert aux consultants indépendants. Et je trouve ça très intéressant, parce qu'aujourd'hui, ils doivent représenter à peu près 50% des clients qu'on a eu depuis le lancement. Et j'aurais jamais pensé ça. Et aujourd'hui, j'ai de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ça. Même moi, je vais utiliser maintenant Gensib pour, si mon client est d'accord, bien sûr, je demande l'autorisation. Mais comme ce n'est pas un LLM qui tourne derrière, ce n'est pas une IA qui va rédiger vos politiques, c'est vraiment moi qui ai rédigé tous les templates, qui ai mis toutes les conditions, norme par norme, qui ai créé toutes les questions. Ils ont plus facilement confiance que si je leur disais c'est un GPT qui tourne derrière et qui génère avec vos réponses, etc. Donc ça, c'était intéressant. On a vraiment...
On achète la confiance avec Gensib, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ouais.
On a vraiment bifurqué sur à qui c'était possible de vendre. Et ça, on a bifurqué en cours de route, très rapidement, dès que le MVP est sorti, parce que justement, il y avait ces besoins qu'on n'était pas préparé à affronter et pour lesquels il a fallu très vite s'adapter et pouvoir proposer... proposer le multi-organisation, multi-client directement dans l'outil. Donc, en fonction des plans qui sont choisis, maintenant, les indépendants peuvent également avoir telle ou telle fonctionnalité et donc peuvent avoir plusieurs clients. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Donc, toujours se confronter au marché, toujours confronter ses idées au marché. Et ouais, c'était vraiment pas mal. Et là, maintenant, on est en train de voir, effectivement, pour avoir des ambassadeurs. Donc, on va essayer de faire appel à des influenceurs LinkedIn, mais également ce qu'on appelle des contributeurs experts, puisqu'on s'est rendu compte que nous, nos corpus, notre objectif, c'est d'avoir toutes les normes cyber. Déjà françaises, mais dans tous les secteurs d'activité. Sauf que les normes de l'industrie, les normes de la défense, les normes de la santé, ça va être des normes totalement différentes. De mon côté, je ne veux pas forcément... me poser comme experte sur ces normes parce que si je ne les ai pas implémentées, je ne les ai pas vues, je ne veux pas faire n'importe quoi. On parle quand même de clients qui ont besoin d'être audités, qui vont passer parfois des certifications, qui ont des enjeux réglementaires très importants. Donc, pour moi, c'est important d'avoir la crème de la crème, les experts des experts. Yes. Et donc, j'ai fait un appel à contributeurs et on a déjà eu beaucoup de retours, ça, je suis ravie. Donc, on a déjà maintenant, normalement, un contributeur pour Dora. On a quelqu'un aussi pour la partie industrie. On a quelqu'un pour la partie santé. On a quelqu'un pour la partie défense. Et au fur et à mesure, on va rajouter comme ça de plus en plus de normes. Et donc, ce sont des gens qui ont plusieurs années d'expérience ou qui ont au moins implémenté de A à Z cette norme, qui se sont confrontés au marché, à la réalité du secteur en question. Et voilà, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas être partout. Ça nous donne de la visibilité. On fait en fait avec ce qu'on peut. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de moyens, ads, marketing, payant en tout cas. Donc on essaye vraiment de faire de manière organique à travers la création de contenu, à travers nos ambassadeurs, à travers nos contributeurs, à travers mes vidéos, à travers ma participation dans ce podcast.
Bien sûr, ouais.
Tout ce qu'on peut prendre. Tout ce qui nous aide à gagner de la visibilité, on doit le prendre, on doit le saisir. Et dès que je peux parler de Gensib, hier, j'ai fait deux salons hier, directement, je suis allée, bonjour Alix, j'ai développé Gensib, je pense que ça pourrait vous intéresser parce que vous êtes là aujourd'hui, donc vous avez besoin de ça. Et finalement, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont entrées en relation avec moi sur LinkedIn et qui vont participer au webinaire qu'on a prévu mardi. Donc ça, c'est vraiment cool.
Bon, top, 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 top. C'est génial. Moi, j'adore. J'adore les entrepreneurs, entrepreneuses. C'est un ADN qui est vraiment très spécifique et je pense qu'on a besoin. On en a besoin et voilà. Donc, est-ce que tu aurais une petite conclusion ? Quelque chose à nous dire ? Un petit dernier mot avant de se quitter ?
petit dernier mot, je peux te parler un peu de ce qu'on a prévu pour 2026.
Voilà,
je pense
bien.
Que ça peut être une bonne chose pour nos auditeurs. Alors, première chose qu'on va avoir prévue, ça va être de développer une API qui va pouvoir être utilisée à la fois par les autres éditeurs, mais également pour interconnecter Gensib avec les outils internes des entreprises. Donc, ça va pouvoir permettre, en fait, s'ils ont des outils qui gèrent leur plan d'action, leur conformité, que ce soit des outils payants, open source, gratuits, peu importe, ils vont pouvoir exploiter cette API et recevoir, en fait, les informations de leur politique de sécurité. Donc, si la politique, elle est en cours de rédaction, si elle est en brouillon, nous, si elle a été validée, parce qu'il faut savoir qu'on a un workflow d'approbation complet dans l'outil, ça va pouvoir leur permettre, en fait, de pouvoir avoir, justement, d'alimenter leur plan d'action de conformité et de pouvoir tracer tout ça. Donc ça, ça va être une grosse chose qui nous a été demandée par plusieurs personnes. Donc, je pense que ça va pouvoir nous permettre de décoller aussi. Et ensuite, on a prévu de faire de l'hébergement on-premise, donc de paramétrer notre outil pour qu'il puisse être hébergé directement chez nos clients, pour ceux qui ont des environnements très sensibles et qui ne voudraient pas qu'on ait recours à eux. Et là, hier, j'ai découvert un super data center, donc je pense que je le dirai publiquement qui ça sera officiellement quand on aura pris la décision, mais on cherche un data center franco-français, financement français, certifié HDS 27001 Secnum Cloud. Et donc, normalement, je pense qu'on a trouvé et je le dirai bientôt publiquement. Mais donc, ça aussi, c'est un gros changement de changer de data center. Et puis après, on est en train de discuter avec quelques outils là hier que j'ai découvert. Normalement, je vais avoir des conversations assez intéressantes dans les prochaines semaines pour potentiellement créer des interconnexions justement entre nos outils et en fait avoir un cycle complet pour nos utilisateurs de « j'ai pas de politique de sécurité » à « voici mon plan d'action, je suis conforme, mes écarts c'est ça, mes remédiations à faire c'est ça » et qui vont s'auto-alimenter les uns entre les autres.
Donc pour résumer aussi, on va l'entrepreneuriat, donc en quelques mots tu dirais bien s'entourer, d'apprendre de ses erreurs, d'aller chercher le marché, de ne pas être fantaisiste avec ses propres idées. Est-ce que tu auras encore quelques mots
Ne pas prendre personnellement les échecs. Je pense que c'est important. Tu parlais de résilience tout à l'heure. C'est bien sûr très important d'être résilient. Mais surtout, il ne faut pas se dire que là, on a pris une mauvaise décision ou là, on a un échec. C'est notre faute. On est nul, on est mauvais, on ne va pas y arriver. Je ne dis pas, il y a des jours où... Il y a des jours sans, forcément. Il y a des jours où même moi, je me dis, j'aurais pu mieux faire. Mais ce qui est important, et je pense que ce qui fait vraiment la différence dans la durée, c'est justement de se dire, j'apprends de mon erreur, je fais mieux et je continue. En fait, j'aime beaucoup l'adage qui dit, le seul entrepreneur qui n'a pas réussi, c'est celui qui s'est arrêté avant.
Tu vois, pas mal.
c'est celui qui décide d'arrêter parce que non, j'y arriverai pas. Ouais. Lui, il ne réussira pas. Et quand tu écoutes les success stories, j'aime bien d'ailleurs, j'ai écouté le podcast de Xavier Niels a participé Build, c'était très intéressant, il a donné, tu vois vraiment qu'en fait, ce qui est important, c'est la résilience, c'est le fait d'être réactif, c'est le fait d'apprendre de ses erreurs et tout de suite rebondir pour améliorer ton produit, ton service, ton logiciel, peu importe ce que tu proposes, toujours se confronter à la réalité du marché. Je dirais même que c'est encore plus important dans la cyber, parce que nous, on est dans un milieu qui est anxiogène pour nos clients. Mmh. Un milieu où on leur dit, attention, si vous ne nous écoutez pas, vous allez pouvoir avoir des cyberattaques, etc. C'est compliqué pour eux. On leur vend de la sérénité. Donc, on ne peut pas non plus avoir tout le temps un discours anxiogène. On doit avoir un discours rassurant. Et en même temps, on doit quand même leur faire affronter la réalité des choses. Il faut qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils choisissent nos outils, de quoi ça va les préserver, comment est-ce qu'ils vont être protégés, quelle va être la plus-value pour eux. Donc, c'est important d'avoir un discours qui soit adapté à la vision et lorsque on signera pas ou lorsque on perdra un contrat ou lorsqu'on fera un mauvais recrutement, il faut se dire que c'est pas le projet qui est mauvais, c'est juste une étape et un apprentissage. Je l'appellerai même pas erreur, c'est pour moi, je les appelle des leçons. Pour moi, le mauvais recrutement de mon développeur, ça a été ma plus grande leçon.
Donc allez-y, il faut entreprendre. Merci Alix.
Merci beaucoup Jérôme.
Et bonne continuation pour la suite, on te suit.
Merci beaucoup pour la participation et puis au plaisir de continuer à discuter.
Plaisir. plaisir d'échanger. Oui. Salut.
Au revoir.